Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quel que soit le chemin emprunté pour atteindre la sainteté que Dieu veut pour chacun d'entre nous, le principe fondamental est toujours le même. C'est celui que saint Paul indiquait aux chrétiens de Corinthe. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Humble et fière affirmation que saint Augustin a commentée ainsi. Ni la grâce de Dieu toute seule, ni Paul tout seul, mais la grâce de Dieu avec lui. Nous ne sommes pas saint Paul, mais nous aussi nous sommes appelés à la sainteté. Et pour nous aussi, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, ça n'est pas l'effet de nos œuvres, c'est le don de Dieu. Et pour nous aussi, la grâce ne veut pas agir seule. Dieu veut notre coopération, et une coopération généreuse, énergique. Comme saint Paul, nous devons travailler. La vie chrétienne n'est pas synonyme d'amour de ses aises, de sa liberté, de ses droits. Elle est synonyme d'amour généreux et même de bravoure. Et c'est précisément ce que saint Paul a voulu expliquer à la jeune chrétienté de Corinthe dans le passage qui sert d'épître à la messe d'aujourd'hui. À l'époque où saint Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe, Corinthe est une ville de plus d'un demi-million d'habitants, une ville opulente, cosmopolite, bigarrée, avec son double port qui lui apporte une abondance de richesses mais aussi une multitude de vices. C'est la capitale de la province romaine d'Achaïe, mais c'est aussi la capitale méditerranéenne de la luxure. Corinthe a supplanté Athènes à ce moment-là, non pas par un surcroît de sagesse et de culture, mais par son activité commerciale et par la dépravation de ses mœurs. Imaginez, si vous voulez, aujourd'hui Rotterdam ou Marseille, c'est un peu pareil. Eh bien, c'est pourtant dans ce lieu que naquit une des églises les plus florissantes de l'Antiquité chrétienne. La prédication de saint Paul y eut un très grand succès, spécialement dans les milieux païens de la ville. Et pourtant, la jeune chrétienté de Corinthe avait tendance à se diviser en factions rivales et donc à oublier la charité. Et saint Paul était obligé de lui adresser de sévères avertissements. Ce sont les deux lettres aux Corinthiens que nous connaissons. Car plusieurs chrétiens de Corinthe comprenaient de travers cette toute nouvelle liberté chrétienne que saint Paul leur avait enseignée et qu'ils confondaient avec une certaine forme de licence. Libérés du joug païen, ils se croyaient immunisés, préservés du mal, libres d'agir à leur guise, comme si désormais tout leur était permis. Ils s'estimaient volontiers supérieurs aux autres, se glorifiant des dons reçus de Dieu, et surtout ne ressentant plus le besoin d'assurer leur propre salut, ni de fournir des efforts pour se sanctifier. Il y a là, mes frères, un danger dans lequel nous pourrions tomber nous aussi. Ne sommes-nous pas les tradis, comme on dit, le gratin des catholiques, le petit reste privilégié au milieu de ce monde pourri? C'était un peu le cas de ces jeunes chrétiens corinthiens. Alors écoutons saint Paul. Pour réprimer la fausse idée que les Corinthiens se faisaient de la vie et de la liberté chrétienne, l'apôtre a recours à une double comparaison tirée du sport. C'est une comparaison que saint Paul aimait à employer. Et il n'hésite pas à donner en exemple sa propre conduite. Et en effet, le chrétien est semblable à un athlète. Et pour les Corinthiens, c'était une comparaison très parlante, parce que la ville de Corinthe organisait tous les deux ans les Jeux dits isthmiques, en l'honneur de Neptune, donc des Jeux tout à fait païens. Et ces compétitions sportives attiraient une foule passionnée. Parmi les nombreuses épreuves, deux l'emportaient sur toutes les autres, la course de vitesse et le pugilat. Et ce sont les deux épreuves qui retiennent l'attention de l'apôtre. Il leur dit donc, Ne savez-vous pas que dans le stade, tous courent, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de même afin de le remporter. En d'autres termes, pour assurer votre propre salut, vous devez courir. La vie chrétienne, ce n'est pas une promenade nonchalante, c'est une course. Et courir non pas à l'aventure, non quasi in incertum, dit saint Paul, sans but, mais le regard fixé sur le but, à l'exemple de l'athlète qui, au signal du départ, bondit et ne pense plus qu'au but à atteindre. Or, pour nous, pour les Corinthiens, mais pour nous aussi, le but, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le ciel. Nous devons donc avoir les yeux fixés sur ce but et y tendre de toutes nos forces, sans nous laisser distraire de droite et de gauche par les attraits du monde. Bien plus, dans la course du stade, les concurrents se soumettaient à un très rude entraînement. Ils acceptaient un régime austère, ils s'astreignaient à une ascèse rigoureuse. Le chrétien ne saurait faire moins. Car entre le chrétien et le coureur, il y a une différence notable. Au stade, un seul des concurrents reçoit le prix. Et ce prix, c'est une simple couronne périssable. C'était une couronne de laurier ou une couronne de pain. En revanche, tous les chrétiens, eux, tous, pourvu qu'ils soient fidèles et qu'ils courent prestement jusqu'au bout sans s'arrêter, tous ces chrétiens recevront une couronne. Et cette couronne, elle est incorruptible, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de comparaison. L'autre image sportive choisie par saint Paul est beaucoup plus brutale. C'est celle du pugilat. Par cette image, l'apôtre veut frapper les esprits. Il veut montrer avec quelle énergie nous devons travailler à l'œuvre de notre sanctification. C'est un rude combat. C'est un combat qui réclame une entière détermination. Vous vous souvenez la parole de notre Seigneur ? Le royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans l'épreuve du pugilat, les pugilistes s'affrontaient les poings armés du ceste. Qu'est-ce que c'était que ce ceste ? Cet instrument consistait en une longue lanière de cuir enroulée autour de la main et de l'avant-bras et parfois renforcée autour des doigts par des anneaux de cuir très épais ou même de métal. Donc les coups que se portaient les pugilistes faisaient très mal. Il y avait des blessés. Et le pugiliste visait son adversaire en pleine face, non pas en battant l'air, comme dit saint Paul. Et après l'avoir terrassé, il le traînait comme un captif autour de l'arène, aux applaudissements de la foule. Alors saint Paul applique cette image, une image hardie, il l'applique à son propre corps. « Castigo corpus meum et in servitutem redigo. Je châtie mon corps et je le réduis en servitude. » Considérant son corps comme un adversaire qu'il faut dompter, qu'il faut réduire au rôle d'instrument docile à cause de ses instincts sensuels et égoïstes. On pourrait se demander, mais pourquoi une telle rigueur ? Eh bien, à cause du péché. Parce que nous sommes pécheurs, enclins au péché. Et si nous ne voulons pas être éliminés, disqualifiés, comme dit saint Paul, réprobus, privés de la récompense éternelle, eh bien, il faut vaincre notre adversaire, c'est-à-dire le péché, le diable, le monde et nous-mêmes. Ne voyons donc pas dans cet exemple un quelconque mépris du corps. Comprenons, à travers cette image, à quel point le travail de notre sanctification est une affaire sérieuse, une affaire qui exige un combat résolu, des sacrifices généreux. Saint Jean Chrysostome a commenté ainsi ce petit passage. Si saint Paul, dit-il, le plus fort de tous, craignait d'être disqualifié après avoir prêché aux autres la sainteté, combien plus devons-nous craindre nous-mêmes ? Alors, face aux suggestions du diable, face à ses tentations insidieuses, n'hésitons pas à frapper énergiquement, comme saint Paul. Visons l'adversaire en pleine face, sans état d'âme. Il y va de notre salut. Et si ces comparaisons ne suffisent pas à nous convaincre, eh bien regardons la suite. L'avertissement, cette fois, est tiré de l'histoire des anciens Hébreux pendant leur traversée du désert, pendant l'Exode. L'idée essentielle de ce passage est soulignée par les cinq répétitions du mot « tous » et l'unique antithèse placée à la fin. Cependant, ce n'est pas dans la plupart d'entre eux que Dieu mit sa complaisance. Le contraste est très fort. Tous ces Hébreux, en effet, ont été comblés d'innombrables prévenances, d'innombrables bienfaits de Dieu, bienfaits qui figuraient les faveurs spirituelles que le Christ nous accorde à nous. Tous ont été dans la nuée, tous ont traversé la mer Rouge, tous ont été baptisés en Moïse, tous ont mangé la manne, tous ont bu l'eau du rocher, et pourtant, la plupart d'entre eux sont restés gisants dans le désert, morts, parce que Dieu n'a pas trouvé en eux son plaisir. Ils n'ont pas correspondu à la grâce, et donc ils se sont laissés aller à de multiples désordres. Quelle leçon ! Voilà de quoi méditer sur les dangers d'une fausse sécurité et la folie de la présomption. Car ces événements ne sont pas seulement des avertissements prophétiques, ce sont des exemples, des modèles de ce qui nous arrivera à nous-mêmes si nous suivons la même conduite que ces anciens Hébreux. Parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, au fond. Et qui plus est, nous avons le Christ. Le Christ n'est pas seulement présent en figure pour nous, il l'est en réalité avec sa grâce bien réelle. Nous n'avons pas d'excuses, beaucoup moins d'excuses que tous ces anciens Hébreux. Alors ce rappel du passé est une salutaire mise en garde contre la présomption. Que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber. Saint Paul ajoute ces mots quelques versets plus loin. Nous devons nous appuyer sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. Et nous devons être courageux, travailler pour que la grâce en nous ne soit pas stérile comme elle ne l'a pas été pour Saint Paul. Dans la ligne de tout ce qui précède, de tout ce que nous venons de dire, nous sommes amenés à réfléchir à ce que le père Garrigou Lagrange, dans son maître livre intitulé « Les trois âges de la vie intérieure », appelle « les âmes attardées ». Il y a là un enseignement très précieux. De même, en effet, qu'il y a des enfants qui, physiquement ou mentalement, ne traversent pas la crise de l'adolescence et n'arrivent jamais au plein développement de l'âge adulte. Et bien de même, il y a des âmes qui n'atteignent jamais la plénitude de la vie spirituelle que Dieu veut pour elles. Ce sont des âmes attardées. Et elles sont hélas fort nombreuses. Sans doute, plusieurs d'entre elles ont servi Dieu autrefois avec fidélité. Elles ont même peut-être connu une vraie ferveur spirituelle. Mais elles se trouvent maintenant dans un état voisin de l'indifférence. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles n'ont pas gardé les yeux fixés sur le but. Elles ont cessé de courir, elles ont cessé de lutter, elles ont présumé de leur force, et donc elles sont devenues tièdes. Comment ces âmes sont-elles arrivées à cet état de tiédeur ? On peut dire sans crainte téméraire, sans jugement téméraire, que c'est par un abus des grâces divines, certainement. Sans cet abus, le Seigneur aurait continué en elle ce qu'il avait commencé. Dieu refuse jamais son secours à ceux qui font tout ce qui est en eux pour obtenir ce secours. Mais comment donc s'est produit cet abus des grâces ? Pour l'expliquer, on indique généralement deux causes principales. La négligence dans les petites choses, dans le service de Dieu, et le refus de faire les sacrifices demandés par lui. La négligence des petites choses, ça nous paraît léger, parce que précisément il s'agit de petites choses. Mais quand cette négligence est délibérée, elle peut devenir grave par ses conséquences. Car si l'on y réfléchit, c'est avec des petites choses que du matin au soir se constitue ordinairement notre mérite quotidien, se réalise notre sanctification, on se sanctifie dans des petites choses. Un peu comme les gouttes d'eau tombées d'une gouttière percée amollissent peu à peu la pierre et la creuse. Et bien de la même manière, nos actes bons, nos petits actes bons, par leur répétition, engendrent en nous des vertus acquises. Et s'il s'agit d'actes accomplis surnaturellement, ils obtiennent l'accroissement des vertus infuses. Nous progressons en sainteté. La grâce appelle la grâce. C'est la grande loi de notre sanctification. La fidélité aux petites grâces attire d'autres grâces, et ainsi, de grâce en grâce, nous grandissons en sainteté. Et au contraire, si nous sommes infidèles à ces petites grâces que Dieu nous propose, nous offre, nous nous privons des grâces nouvelles qu'elle nous aurait méritées. Et nous devenons peu à peu indifférents aux sollicitations de Dieu. Et c'est un grand malheur. Comme le dit saint Luc, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle tous les jours au moindre devoir de la vie chrétienne recevra en effet la grâce d'être fidèle dans les actes difficiles qui lui seront demandés, et même jusqu'au martyr. On le voit bien avec l'histoire des martyrs d'Avrillé que nous allons fêter cette semaine. Pour lui, pour cette âme fidèle, s'accomplira la parole évangélique. C'est bien bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais inversement, la négligence des petites choses conduit assez vite à la négligence des grandes choses. On bâcle la prière parce qu'elle pèse. On espace de plus en plus la réception des sacrements qu'on reçoit sans fruit. On assiste passivement à la Sainte Messe parce qu'on s'y ennuie. On ne fait plus d'efforts pour garder la charité fraternelle et puis on rejette ceux qui nous sont antipathiques. On éprouve du dégoût pour la lecture spirituelle ou pour les exercices de piété. On juge sévèrement les personnes dont la piété nous fait l'effet d'un reproche. Bref, on finit par traiter avec négligence les choses les plus saintes, tandis qu'on s'acquitte souvent avec le plus grand sérieux des choses profanes qui flattent nos goûts ou qui nous valorisent. Et c'est ainsi que peu à peu, le sérieux de la vie est tout à fait déplacé. La seconde cause de la tiédeur de ces âmes attardées, c'est le refus de faire les sacrifices que Dieu demande. Ça va de pair. On se sent appelé à une vie plus sérieuse, plus parfaite, à prier davantage, à couper avec telle ou telle habitude, plus ou moins mauvaise ou dangereuse, mais on refuse. On ne veut pas. On refuse sinon directement, au moins indirectement, en cherchant une diversion, parce que ce sacrifice demanderait trop d'efforts. Au fond, on ne veut pas entendre ces paroles que les clercs disent tous les jours à l'invitatoire de matine. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Tous, on entend cette voix. Est-ce que nous l'écoutons vraiment? L'âme qui refuse ainsi les sacrifices que le Seigneur lui demande perd le zèle de la gloire de Dieu, du salut du prochain. Elle finit par tomber dans la tiédeur, c'est-à-dire dans la négligence habituelle et dans l'affection, au péché véniel délibéré. Elle est disposée à commettre délibérément tel ou tel péché véniel quand l'occasion se présentera. Et peut-être même a-t-elle le ferme propos de rester dans cet état. C'est un état qui est très dangereux, qui prédispose à commettre bientôt des fautes graves. Alors, écartelée entre les commandements de Dieu qui lui déplaisent et le monde qui l'attire, cette âme cherche à biaiser. Elle discute, elle calcule, elle s'estime en droit de s'accorder des dispenses ou des compensations, et elle finit par s'accommoder du minimum, par s'installer dans la religion du moins possible, là où il n'y a pas de sacrifice. Et même ce minimum, pourtant taillé à sa mesure, reste une entrave qui lui pèse encore trop. Sa vie faite de calculs, de combines, n'est pas épanouie. Il la traîne comme un boulet et ne peut s'empêcher d'être profondément triste. Alors, mes frères, que Dieu nous préserve de ces maux. Soyons généreux, écoutons saint Paul, soyons résolus. Coopérons à la grâce de plein gré pour qu'en nous, l'œuvre de Dieu ne soit pas vaine. Ne mettons pas d'obstacle au travail de la grâce. Et puis prions la Vierge Marie qu'elle nous donne la lumière, la force pour écarter ces obstacles. Et si nous étions négligents à le faire, eh bien alors qu'elle daigne les écarter elle-même, dussions-nous même en souffrir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.